Explore, un podcast de l'Église évangélique réformée de Suisse pour découvrir l'Église qui arrive et un monde transformé par la foi.
Bonjour à vous tous et toutes qui nous écoutez, qui nous suivez dans cette deuxième saison d'Explore. On arrive un peu à une étape là, ce sixième épisode, plus ou moins la moitié du parcours qu'on s'était fixé. Et puis c'est pas mal parce qu'on va aller se ressourcer avec la thématique qu'on va aborder dans cet épisode. Après avoir parlé de Jésus un peu comme point de référence de la foi chrétienne, la thématique du royaume comme voilà ce vers quoi on va, un horizon d'attente, aujourd'hui on va parler de la joie, la thématique qu'on a aussi un tout petit peu effleurée dans le précédent épisode, la joie comme une manière de parler de la plénitude. Alors... Bon, Sophie, tu as dit que tu avais beaucoup d'obscurité en toi dans un épisode passé, mais c'est toi qui vas nous parler de la joie et c'est avec toi qu'on va commencer cet épisode.
Ouais, alors de mon côté, j'avais envie de vous parler en préambule pour évoquer le thème de cet épisode d'un sentiment. D'une émotion qui me saisit parfois quand j'attends le train ou le bus. Vous savez peut-être, mais je prends souvent les transports publics. Alors sur le quai ou à l'arrêt, ça m'arrive d'éprouver une joie, justement. Souvent dans ces cas-là, il fait beau. Parfois, j'écoute de la musique. Et puis, j'ai comme la sensation que quelque chose rayonne en moi et autour de moi. Je regarde les gens qui passent, le monde autour de moi, et je me sens reliée à tout ça comme par des fils invisibles. Et pendant plusieurs minutes, je peux avoir ce sentiment que tout bouge et qu'en même temps, tout est à sa place, que le monde est beau, que les gens sont beaux, et je me sens totalement en phase, partie d'un tout, d'un ensemble qui a du sens parce qu'il est entretissé de la présence de Dieu que je perçois fugitivement. Le temps de quelques instants. Et pour moi, ça, c'est un morceau de la joie de Dieu. Et c'est une des choses qui me fait me lever le matin aussi. Ces quelques secondes de plénitude, c'est l'élan qui me porte à me dire que j'ai ma place dans ce monde, mon rôle à jouer dans la marche du monde et dans l'élan de vie donné par Dieu. Si je n'étais pas là, à cet endroit-là, à ce moment-là, tout changerait. Si chacune des personnes qui sont autour de moi à ce moment-là n'était pas là, tout changerait aussi. Je ne les connais pas, mais elles sont infiniment importantes, infiniment de valeur. Et la joie de Dieu m'ouvre à cette conscience et me donne de l'élan d'avancer, de prendre ma place dans le monde, aux côtés des autres, et de participer à ce vaste mouvement qu'est la marche du monde, la danse de la vie. Voilà pour mon approche de la joie de Dieu.
C'est rigolo que tu finisses sur la danse de la vie, ce terme. Mais c'est vrai que moi, dans l'épisode précédent, je crois, je l'évoquais plutôt dans son ambivalence. Mais une vie qui danse, une vie qui est légère, une vie qui a du sens. On a dit que ce serait dans le registre de la plénitude. On parle de ça... Parce que quand on a parlé du royaume, on a dit qu'il y a quelque chose qu'on vit déjà maintenant qui est d'une attente réalisée. Puis, juste comme ça, pour relancer par rapport à ce que tu as dit, est-ce que tu vis ça comment? Ça nourrit? Il y a un lien, l'attente dont on a peut-être parlé en lien avec le royaume et ça, cette expérience que tu viens de décrire?
Peut-être autour de la question de la paix. Et pour moi, dans la joie, on a parlé de plénitude, dans l'accomplissement, il y a cette notion-là, cet apaisement, en fait. J'ai des fois l'impression que la vie, c'est un peu une lutte. Il faut faire sa place, il faut travailler, défendre son gagne-pain, défendre ses convictions, se profiler d'une manière ou d'une autre. Et pour moi, dans ces moments-là, un peu suspendus, c'est exactement l'inverse. C'est juste là, c'est le monde qui se donne, finalement. Je sais que plusieurs personnes éprouvent ce sentiment-là dans la nature. Moi, ça m'arrive de ressentir ça en montagne. Mais c'est vrai que je peux vivre ça aussi tout à fait au quotidien, comme ça. Mmh. Et ce qui m'interpellait aussi, c'est... Alors oui, j'ai peut-être insisté un petit peu sur la dimension de l'obscurité, mais j'ai toujours été interpellée par les gens qui disaient qu'ils priaient que quand ils étaient en détresse ou malheureux ou comme ça. Moi, c'est exactement l'inverse. Quand je suis malheureuse, je vais arrêter de prier. Quand je suis heureuse, moi, pour moi, c'est facile de prier. Enfin, c'est... Il y a quelque chose de l'ordre de la louange et je pense que la foi pour moi elle est aussi passée par d'abord la reconnaissance de quelque chose qui se donne en fait et d'une forme en fait de reconnaissance de ce genre de moment là qui existait déjà avant ma confession de foi finalement mais qui à un moment donné a pu émerger aussi, se connecter en fait à peut-être plutôt l'obscurité en moi. Voilà.
Connecter ?
Bah, dans le sens où, à un moment donné, je pense que l'obscurité était fermée à quelque chose.
Oui.
Et maintenant, je peux dire, oui, mais en fait, dans cette obscurité-là, que je reconnais en moi, dans le monde, etc., eh ben, y a aussi un germe de cette joie.
La lumière fut.
Et la lumière fut,
ah,
ouais.
C'est beau.
Ouais. Il est ressuscité.
Ouais. Oui.
C'est la même affirmation, finalement.
Là, dans la Bible, on trouve quand même beaucoup, et on les lit pas très souvent, je pense, mais de manière de parler de cette joie. Moi, il y en a une... c'est toujours un peu étrange, c'est pas forcément d'ailleurs justement limité aux êtres humains quand on parle de cette joie et de ce qui se passe dans ce moment de paix, on peut peut-être y aller avec ça, ce moment qui fait sens, ce moment où les choses sont illuminées aussi dans le fait d'être liées les unes aux autres, quoi, quelque chose comme ça. Moi j'ai toujours ce verset qui est un chant aussi, mais on est dans un contexte, là j'ai le prophète Ésaïe sous les yeux, ça va être tiré de là, mais on est dans un contexte où quand même on parle d'un peuple qui est en exil, qui souffre de la séparation avec son territoire, qui souffre du fait de ne plus avoir l'autonomie politique sur son destin non plus. Puis après, il y a cette phrase d'espérance, voilà, qu'on devrait se resituer, mais qui dit « Oui, vous sortirez avec joie, vous serez conduits en paix, les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne ou les arbres des champs battront des mains. » Je trouve que c'est bon, c'est des images, mais ça a quelque chose de... On est dans un état du monde où même les montagnes et les collines rayonnent de quelque chose, disent quelque chose. Alors c'est pas comme la montagne de bon, ben les romans reconnaîtront celle de Ramu, qui est inquiétante, qui est dangereuse, qui est un lieu où on y va, on prend des risques, quoi. C'est pas, on veut pas vraiment y être. Elle impressionne, elle nous écrase, la montagne. D'ailleurs, c'est toute l'ambivalence quand on rencontre Dieu au sommet des montagnes, c'est qu'à la fois on a un truc absolument énorme à traverser, et puis quand on est au-dessus de tout, enfin voilà, le vertige d'être au-dessus de tout, et en même temps un tout tellement écrasant, imposant, inamovible. Et puis là, non, ce même truc-là éclate d'allégresse devant nous.
Ouais, on est plutôt dans la poésie ou la littérature anglo-saxonne un peu plus positive autour de la nature.
Ouais,
ou...
ouais.
Ou ce genre de choses-là.
Ou les arbres des champs qui battent des mains. Enfin, on voit bien, visuellement, ça dit quand même quelque chose aussi de comment un peuplier, quand il peut bouger dans le vent, mais il n'est plus agressé par le vent. Tu vois, on dit autre chose. Il n'est pas juste brinque-ballé face à une nature qui est plus forte que lui. Non, là, il exprime sa joie. Ses feuilles qui bougent, c'est pas juste les lois de la nature, quoi. C'est autre chose. Moi, je raisonne avec ça. Je le mets aussi un peu en résonance avec cette manière de dire, au fond, je peux faire... À un moment donné, je goûte à un monde qui est plus hostile. Alors, c'est aussi Cynthia qui l'avait dit dans le précédent épisode, dans sa capsule. Hein, mais je peux goûter à quelque chose qui fait sens, même si je ne connais pas tout. Il y a quelque chose qui reste étranger, et pourtant, je... Ouais. Est-ce que c'est une totalité ? Ça, c'est un peu ma question. Qu'est-ce que c'est que ce tout qu'on expérimente ? Parce qu'on a aussi dit tout le problème des idéologies qui enferment, du fait que le royaume vient ouvrir. Alors qu'est-ce que c'est que ce tout dont tu as dit que tu as fait l'expérience ?
Oui, après je ne le formulerai pas forcément comme un tout. Enfin, je prétends pas atteindre la totalité.
Ok, t'as pas dit ça. D'accord. Ouais.
J'ai le sentiment d'être relié.
Oui, c'est vrai.
C'est,
tu as parlé
c'est
de lien.
C'est plutôt de ce côté-là. Donc forcément, dans jusqu'où ça m'entraîne, je sais pas trop. Il y a quelque chose qui m'échappe.
Ouais.
Mais c'est cette notion de ouais de lien, je dirais.
Ok. Tu regardes un peu dans ta direction, Dimitri ?
Oui, moi, c'est...
Tu nous observes religieusement là depuis
tout à
l'heure.
Oui, c'est vrai, ça m'a rendu réflexif. Et en fait, ce que tu as dit avant me rappelle en fait un film très connu de Wim Wenders qui s'appelle Les Ailes du Désir. Je ne sais pas si ça me parle.
Mon Dieu, c'est vieux.
C'est vraiment un des grands...
Excuse-moi, mais...
Oui, mais c'est un des grands classiques. Alors, bien sûr, c'est des années 80.
Tu peux faire un peu le pitch à nouveau rapidement?
Oui, en fait, c'est un... ça s'appelle aussi en allemand, je crois, c'est Himmel über Berlin.
Ah et oui, puis ce sont des anges. L'affiche, on voit un ange sur le toit
c'est
d'un...
C'est ça.
D'un
et en fait, on okay, suit ouais. des anges, et notamment un, qui sont vraiment des instances aidantes pour les humains, enfin, qui se posent auprès d'eux, qui sont là, qui... Mais qui sont des anges. Et on pourrait s'attendre à ce que ces gens vivent une forme de plénitude, puisque ce sont des anges. Et en fait, un de ces anges, en fait, a soif d'être incarné, de devenir humain. Enfin, on assiste au processus d'humanisation d'un ange. Et c'est... Et à un moment donné, il tombe sur un ange qui a réussi à faire cette transition, qui est devenu humain. Et puis qu'il dit, mais en fait, qu'est-ce qui est si bon d'être humain, en fait? Et à un moment donné, l'ange lui explique, tu sais, quand t'as froid et puis que tu frottes tes mains, ça fait chaud, quoi, aux mains. C'est tellement agréable. Et en fait, et il lui donne plein d'exemples, au fur et à mesure, d'événements, non, pas seulement simples, pas seulement banals, mais des choses auxquelles on ne pense absolument pas. Des micro-bonheurs liés, justement, au fait d'être vivant. Et en fait, le simple fait de pouvoir apprécier ça, ça l'a humanisé. Enfin, et du coup, ça m'a, en ayant vu ce film, ça m'a réconcilié justement avec plein de choses que je considère comme étant a priori désagréables, mais qui en fait sont profondément satisfaisants comme étant, voilà, faisant partie des choses bonnes à vivre, même si elles peuvent paraître dans un premier temps, voilà, plutôt des petites contrariétés. Et je pense que ça rejoint aussi ce que tu as dit, c'est qu'il y a des moments où on est si bien réconcilié avec notre vie quelque part que même ces éléments-là sont investis d'une forme de bonheur et de joie.
Oui, puis du coup, il y a ce côté peut-être dont on ne parle pas assez dans la vie de foi, de quelque chose aussi de corporel, d'incarné, de charnel, moi j'aurais envie de dire. Ça, c'est aussi quelque chose. J'ai de la peine à trouver des mots, peut-être parce que c'est des choses qu'on n'apprend pas au niveau non plus du vocabulaire théologique, de comment savoir parler de ces choses incarnées qu'on expérimente, alors même que, en même temps, ça fait partie. Quand on parle de sentiment de plénitude, il y a quelque chose. Ça s'ancre dans le corps. Tu disais toi aussi, Elio, en off, que c'était quelque chose qui te semblait important dans ton expérience de Dieu aussi, d'avoir cette dimension-là. Pour moi, c'est aussi important parce que finalement, Dieu, il vient me rencontrer là, et même plus que ça. Je pense que Dieu, il nous a aussi rêvé comme ça. Il nous a aussi, quand il y a ce texte, je vais peut-être dire un gros mot, mais moi, quand je vis des moments d'intimité, ça m'arrive de penser souvent, de proximité physique, de penser aux doigts de Dieu qui façonnent, et dans la caresse, dans le geste doux. Il y a ce... Moi, j'y vois quelque chose d'assez primordial de Dieu qui nous façonne à partir de la terre, quoi. Et est-ce qu'au fond, dans les caresses qu'on s'échange, il n'y a pas aussi un peu... c'est aussi toucher, c'est redonner de la forme, la conscience de la forme que Dieu nous a donnée.
Ouais, ou être touché, enfin...
Être touché, c'était plutôt ça dans
bon, enfin, j'imagine,
dans le
parce qu'après, justement, c'est... Enfin, je me dis, ça peut tellement vite basculer, en fait, du coup. Enfin, le même registre, hein. Parce que la discussion qu'on a un peu là maintenant, on explore un peu le registre de la joie, et c'est chouette. Et je me dis, ben, c'est vrai que dans le milieu réformé duquel on participe, c'est pas... Enfin, comment dire, on le connaît, c'est présent dans nos cantiques, mais c'est en même temps... Qu'est-ce qu'il faudrait dire dans notre tradition? C'est pas là-dessus qu'on a forcément mis l'emphase. On est très cérébral, quand même. Globalement, d'ailleurs, vous l'entendez très bien, qu'on est des cérébraux. Enfin, voilà, c'est ce qu'on vous offre quand même aussi un peu. Mais la connexion à quelque chose d'une... quelque chose qui fait du bien, quelque chose apaisé dans le corps aussi. Je pense que c'est pas pour rien d'ailleurs que dans nos milieux actuellement, les exercices de méditation ont pas mal de succès, parce que ça amène justement à entrer un niveau d'attention qui est beaucoup plus bienveillant en fait avec notre propre corps, qui est beaucoup moins rapide, qui suit le souffle et qui rend perceptible tout un tas de choses qui sont du vivant, qui me passent à côté quand je suis dans ma tête, dans l'action, dans la réflexion. Et donc justement cette dimension du corps et de la joie. Maintenant, je pense à notre échange du coup à forcément là je vais ouvrir la porte de l'ambivalence. Allez, on veut parler ici de la joie comme un sentiment de plénitude. Ça relève de quelque chose d'un accomplissement. C'est peut-être ce qui se trouve quand le royaume est arrivé. Si on reprend la discussion qu'on a eue avant, ou c'est quelque chose qu'on goûte déjà maintenant. Mais la plénitude de la joie, elle vient. Elle surgira quand toute chose, quand Christ sera tout en tous. Enfin, il y a des phrases comme ça qui parlent de ce moment. Et ben la joie, c'est aussi, ben on a dit, c'est une émotion, c'est un sentiment. Hein. Et on sait que dans d'autres milieux chrétiens, mais en général dans les milieux religieux, ben ça peut, on peut la générer cette émotion. On sait qu'on peut. Ou est-ce que c'est de la joie justement? C'est peut-être là-dessus que je voudrais venir. C'est-à-dire le plan émotionnel a une part très importante dans le vécu en général, dans le vécu religieux en particulier. Puis on sait que ben, dans des mouvements charismatiques, on va proposer des pratiques, alors des chants, des danses, des expériences collectives aussi, qui vont générer une grande... qui vont vraiment me solliciter à fond sur mon expérience. Moi, je parle de vécu dans des concerts de louanges, par exemple, où justement, on sent qu'il y a... C'est aussi un sentiment de connexion, mais qui en plus est pris d'une énergie qui porte et qui élève, et qui te fait aussi un bout sortir de le lien. Comment dire, on n'est plus simplement à la première personne, il y a une espèce de participation diffuse beaucoup plus large. Je m'étale un tout petit peu avec les autres. Et ben c'est ça, c'est des expériences extrêmement fortes où je vais pouvoir repérer aussi. Dans le quotidien, ce que je vais chercher, je vais peut-être des fois chercher à les reproduire. Et puis on sait, enfin, j'ai évoqué le toucher avant et l'ambivalence du toucher, ben justement, on sait que ça devient aussi une base pour des prises de pouvoir, des prises d'abus, enfin en général des dynamiques d'abus, justement parce que on est allé chercher, activer la personne dans son intimité corporelle la plus forte. Et sur, en fait, aussi des émotions qui décrivent aussi un peu ce que tu as dit. Alors là, on l'a décrit, ou tu l'as décrit, et puis toi aussi, Dimitri, plutôt dans une banalité quotidienne. Tout d'un coup, ça surgit, c'est là. Mais on peut aussi le générer par des expériences fortes, religieuses ou non. D'ailleurs, c'est pas vraiment important de qualifier, là. Mais voilà, on peut provoquer ça. Je mets ça sur la table un peu comme sujet aussi pour discerner ce qu'il en est de la joie. Voilà, comme dit, en milieu réformé, on doit plutôt redécouvrir le sens de la joie. D'autres lieux la cultivent, au fond, beaucoup plus. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Comment voilà, je vous mets ça là. Qu'est-ce que ça fait résonner chez vous?
Moi, je suis assez reconnaissant de la réforme, qu'elle nous en demande pas trop sur ce plan-là. Enfin, non, mais quelque part, j'aime bien être en paix. Enfin, typiquement, des cultes auxquels tu fais référence... Moi, je suis content que dans la réforme, on nous laisse une forme de liberté intérieure, d'éprouver ce que nous voulons, que c'est pas induit.
On est dans un dispositif qui va chercher un minimum de stimulation.
Oui, mais alors peut-être pas un minimum. Oui, peut-être c'est un minimum, mais en même temps qui va nous libérer de tout un champ de fascination, de jouissance de soi, de captation, parce que finalement, notre environnement, notre vie sociale. Elle est faite de divertissement. Elle est faite d'émotions constantes, elle est faite de sollicitations permanentes. La moindre, on est exposé à des images, on est exposé à des discours. C'est sûr qu'on a une époque où on est particulièrement exposé, encore plus même qu'avant. Et c'est pour ça que je demanderais pas encore aux cultes réformés, ou alors aux instances, on va dire, des églises réformées, de rejouer sur cette modalité-là. Je suis content, même si j'éprouve des choses tout à fait fortes et puissantes lors des cultes réformés, même si c'est pas forcément demandé ou requis, je peux éprouver des choses fortes, mais j'ai besoin de cette liberté intérieure, et j'ai besoin de pas être captivé ou capté quelque part. Au fond, j'accepte que j'entre dans une forme de rapport à moi-même, une temporalité qui est un peu différente, et puis qui est aussi quelque part profonde mais apaisante. Il y a quelque chose qui... Et peut-être que la joie qui est revendiquée dans ce contexte-là est plutôt une joie comme apaisement.
De celle que tu décris toi.
Que je décrirais, elle est plutôt liée à... Il y a une joie de l'apaisement, il y a une joie de cette, peut-être, de ce moment de paix intérieure qu'on peut obtenir.
Et une tension s'est résolue aussi, où on n'est plus vive.
Exactement, où en fait une tension peut... Où elle est là, mais elle trouve un lieu, on va dire, de résorption... Ou d'absorption symbolique aussi dans une certaine mesure, même si après j'en ressors et puis bien sûr je suis restitué, remis dans mes problèmes ou autres, ou dans les joies aussi qui sont autres, mais au fond je suis assez reconnaissant de d'y trouver quelque chose qui est l'ordre de la l'apaisement et d'un nouveau regard sur nous-mêmes dont c'est l'occasion aussi. Une sorte de temps un peu à part. Voilà, c'est ce que je dirais.
Voilà, moi je pense que la réponse, en fait, elle se situe un peu dans ce que vous avez dit. Il y a à la fois cette notion de paix. On ne peut être en paix que si on est libre. Sinon, c'est pas de la paix.
Il faudrait approfondir.
Non, mais dans le sens... si c'est une captation, si c'est une violence, si c'est artificiel, c'est pas de la paix, tout simplement. C'est pas de l'apaisement au sens fort du terme. Et ce que tu disais aussi dans tout le vocabulaire que tu as déployé autour de l'artificialité, on cherche à générer, on cherche... Pour moi, c'est, la réponse, elle est là aussi. C'est, en fait, c'est des moments qui se donnent. C'est pas des moments qui se créent. Dans le sens... toute pratique spirituelle, tu te rends bien compte que quand t'as beau t'efforcer à faire quelque chose, à un moment donné, tu reçois. Mais c'est pas par tes propres forces que surgit ce moment-là. Si tu devais t'attendre à vivre des trucs extraordinaires chaque fois que tu pries, ou chaque fois que tu vas au culte, ou chaque fois que
tu médites,
etc., ben, tu t'épuises vite, parce que non, ça vient pas comme ça. Donc il y a cette notion-là aussi pour moi de finalement, l'enjeu, il est dans est-ce que ce moment-là se donne et s'ouvre, et on retrouve l'idée de la brèche dans un système fermé, ou est-ce que tu as l'impression d'entrer dans un système fermé ? Moi, je me souviens d'une personne proche de mon entourage qui me disait... mais je suis allée à une célébration plutôt charismatique, etc. Je me suis trouvée, au moment où quelque chose s'est ouvert pour moi, je me suis trouvée dans la situation où j'aurais pu adhérer, mais ça aurait été faux. Parce que je voyais le dispositif qui générait le sentiment que je vivais.
L'adhésion.
Et là, il y a ce paradoxe-là de... aussi de dire oui, mais en fait les émotions qui sont liées à la spiritualité qu'on peut ressentir, bah oui, c'est aussi des choses qu'on peut instrumentaliser, qu'on peut générer, qu'on peut chercher à capter pour le rediriger à des fins de réussir à générer plus de d'engouement. Tu parlais des dynamiques d'abus, à satisfaire mes propres désirs, etc. Enfin, c'est cette notion-là aussi. Et il y a effectivement un enjeu, mais où... Enfin, je trouve intéressant que tu nous arrêtes tout de suite dans notre joie. tu nous as arrêtés. Et comme si on avait plus peur du corps
que
de la dérive de la pensée.
C'est ça. Ouais.
Je trouve ça absolument révélateur.
Ce que j'ai fait.
Exactement. Mmh. Bah oui, tu nous as arrêtés sur le corps.
J'ai aussi dit qu'on était des cérébraux.
Voilà. Donc, bon. Mais pas seulement en fait. Ouais. Est-ce que c'est pas simplement parce qu'on a plus peur de cette dimension du corps que de la pensée, alors qu'une pensée peut être tout aussi toxique,
ouais, tout à fait.
Peut être tout aussi génératrice d'emprise ou de des fois on joue comme si le champ de la pensée était plus safe, parce que de toute façon si les gens disent des trucs ça a moins d'impact,
ouais, tout à fait.
Voilà. Alors que je pense que les dynamiques d'abus, elles sont tout aussi prégnantes dans un contexte de intellectuel, en fait, aussi. Elles existent aussi, finalement, quand on parle d'abus spirituels, par exemple.
Ou
de dérives sectaires.
Ou simplement, culturellement, à un moment donné, tout l'Occident, drillé sur un paradigme rationaliste, a aussi développé des pensées totalitaires qui ont étouffé, enfin, qui mènent à ce qu'on doit étouffer activement la vie, parce que c'est ce qu'il faut faire selon nos idées, quoi. Donc, enfin, bon, bref.
Exactement, et c'est là où la dynamique... Le champ du corps, finalement, te sort de ce truc-là et dit « Ok, d'accord, même si ça tient debout dans ton petit système de pensée fermé, tu vois bien, devant l'évidence de la violence... sur des corps,
c'est ça, ouais.
Elle te révèle que ta pensée est mauvaise, finalement.
Enfin, ou en tout cas, que c'est source d'un profond malheur et de mort, hein, en définitive. Une chose que je reviens sur l'artificialité, je pense qu'un bout, c'est... Alors oui, pour le fait que ça se donne, puis là, il faudra quand même sans doute parler de Dieu, à un moment donné, la gratuité de cette joie qui vient, c'est... Au fond, c'est bien parce qu'il n'y a que Dieu qui peut la donner, qu'on peut l'expérimenter comme gratuite et pas liée en fait à quelque chose que je dois à ce monde ou à ma performance ou à quelque chose. Non, ça se donne comme ça, cette paix, comme vous l'avez décrit. En même temps, c'est toujours imbriqué avec un bout d'artificiel. Et c'est peut-être pas grave si je peux percevoir le don dans l'artifice, quelque chose comme ça. Je pense à ça parce que je vois que dans mon chemin, notamment dans le rapport au corps, il y a des choses qui ont bougé avec le temps. Mais il m'a fallu, à un moment donné, pouvoir me vivre intensément, notamment au travers de concerts, se passer par de la louange parce que... Et je pense que c'est passer le plus fort par la louange parce qu'il y a du sens qui vient aussi, en plus du corps. Vraiment du sens avec des paroles fortes, quoi, auxquelles certaines choses, je peux encore me rattacher maintenant, parce que ça réconcilie aussi. Des paroles qui, à un moment donné, ont réconcilié des choses en moi. Et en même temps, il fallait... J'avais besoin d'un endroit où je peux juste exister avec mon corps pleinement, me lâcher, faire péter ce que tu fais pas habituellement. Pour moi, c'était des pogos dans des concerts de métal, à un moment donné. Parce que tu te sens, quoi. Et puis, c'est une phase. Là, maintenant, je remarque aussi, j'écoute des concerts, je les écoute différemment, j'ai pas envie de participer de la même manière. Mais il me fallait passer par ça, parce que, dans mon parcours à moi, le corps ne jouait pas vraiment un grand rôle, quoi.
Tu fais plus de pogo, du coup ?
Si, quand même, mais parce que ça fait plaisir, quoi. Enfin,
ah, je suis rassurée.
Non, je fais encore des pogos. Mais en même temps, plus je sais aussi, enfin voilà, ça a été beaucoup plus. Je sais très bien qu'un temps, je cherchais ça et je cherchais les trucs, les pogos bien violents aussi pour sentir un peu quelque chose. En même temps, avec des musiques que j'aimais bien, enfin ça se mariait bien. Et pour moi, c'est le concert de louange évangélique qui fait la même chose, hein, enfin donc à un certain niveau. Et en même temps, je découvre. Je pense que si je vis pas ça, en n'ayant pas... Enfin, je sais pas, j'ai envie de dire, ça fait partie de mon histoire, de mon expérience de la joie, et ça a élargi le spectre de ce que je suis, de ce que je peux être. Et je sais pas si je peux... Pour moi, ça a été flagrant dans des expériences de Dieu, justement. La transition, le passage entre justement quelque chose d'une surstimulation dans un concert de l'ange, qui voilà, m'a fait du bien à un moment donné, et un temps ensuite de recueillement, justement seul face à la montagne, où là, j'ai l'acte de conversion, ou un bout de conversion en direction de Dieu se fait. Pas dans la foule et le bruit et tout, mais dans le silence face à un paysage montagneux en hiver dans les Alpes. Mais ça marche ensemble.
Oui, c'est ça. C'était ça que j'avais envie de dire, en fait. C'est finalement la foi et elle vient unifier en fait toutes ces expériences-là. Elle vient dire oui, mais en fait il y a un lien entre ces différentes expériences Et tout n'est pas constamment la même chose. Dieu me parle dans certaines expériences intenses que je peux vivre physiquement parlant, mais il me parle aussi quand je lis les Écritures. Enfin voilà. Et ce qui fait que tu reconnais finalement un cheminement de foi dans tous ces éléments-là, c'est justement... Et peut-être qu'on est... plus éloigné de la plénitude là, parce que en fait non, c'est pas vraiment de la plénitude, c'est des bribes,
c'est des éclats,
et ensuite qui se transforment en cheminement de foi. Mais c'est jamais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est jamais une réponse unilatérale. Enfin, moi je suis assez persuadée que Dieu s'adresse à nous de la manière dont on a besoin finalement aussi pour le recevoir. Moi, assez clairement, j'avais besoin de passer par un bout d'intellect, mâcher le truc intellectuellement parlant pour en tirer quelque chose. Enfin...
Moi, je pense que c'est intéressant parce que ça pose la question quant à la révélation de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, où est-ce qu'il se dévoile et comment? Et il y a certaines écoles de théologie contemporaines qui disent, mais au fond... les conditions de la réception de la parole de Dieu sont aussi importantes que la manière qu'il a eue de se révéler.
Alors, plus lentement.
C'est-à-dire qu'en fait, Dieu se révèle, mais on ne peut pas faire abstraction
de la manière,
et de nos capacités à le recevoir. Ce qui est quand même... Alors, on ne va pas faire de l'histoire de la théologie, mais qui est plutôt approche plutôt contemporaine. Disons qu'il y a eu certains mouvements théologiques qui refusaient, en fait, de penser... la réception, considérait que c'était déjà une trop forte... ça balançait trop du côté de l'humain et de ses capacités.
L'humain n'est même pas capable de recevoir. Ça c'est une thèse quand même forte à la réforme.
Exactement, qu'il y avait une incapacité notoire, qu'il fallait compter sur la grâce, etc. Mais disons que même du côté de la réforme, on a un peu évolué de ce côté-là, et qu'en fait, on pense le conditionnement de la réception, de la révélation, de la parole de Dieu, et qu'elle se fait aussi sous d'autres modalités... que, effectivement, que la christologie...
les affirmations, les grosses phrases qu'on va avoir sur la foi.
Qu'il n'y a pas, effectivement, qu'une centration christocentrée, qui, effectivement, dans les expériences que tu dis, de certaines joies, notamment aussi dans les concerts dont tu as parlé, moi, j'y vois aussi, pour une part, une ouverture possible vers une réception, vers le sens de cette réception qu'on donne à la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est un palier, on va dire, quelque part. En tout cas, ça pose déjà quelque chose comme une possibilité de l'accueillir.
Bien sûr, finalement. Enfin, c'est normal que cette question se pose là aussi. Oui. Dans le sens où, à partir du moment où on n'est plus dans une société où Dieu est une évidence, se pose la question de comment tu y arrives à Dieu. Et du coup, forcément, peut-être ces expériences un peu transcendantes qu'on peut vivre, ou plus banales, comme on décrivait aussi, on peut les relier à quelque chose de l'ordre de l'expérience de Dieu, finalement.
Mais je pense que ce que tu faisais comme lien avec l'ouvert et le fermé, c'est le rapport qu'on peut entretenir aussi avec l'art, en fait, quelque part. C'est-à-dire qu'on peut considérer l'art comme un objet... tu vois, ça veut dire que dont je peux jouir, en fait, quelque part, parce que c'est beau, parce que j'en connais quelque chose, parce que j'ai une relation. Ou alors, c'est une ouverture sur un champ que j'ignorais, en fait, de mon champ de perception. Dernièrement, il y a eu les expositions de Caspar Friedrich, qui est quand même...
romantique, très important.
Voilà, exactement. Qui est le peintre par excellence du romantisme allemand et qui est extrêmement populaire. Il y a un engouement massif.
Dans le cercle des esthètes.
Je pense qu'en Allemagne, c'est vraiment un phénomène culturel plus large. C'est pas dédié qu'à des cercles élitistes. C'est vraiment... Et je pense que ça a travaillé la sensibilité... théologique en Allemagne, clairement. Et c'est vrai que dans ces rapports à la nature qui sont proposés dans cet art, il y a toute une théologie de la passation, du temps. On voit des petites bâtisses dans de grandes cathédrales effondrées, par exemple, qui sont des métaphores d'une foi qui se renouvelle dans la simplicité, dans cette cohésion avec la nature, et non plus justement au sein de grandes théologie et de grandes dogmatiques ou de grandes cathédrales. On a passablement de métaphores des renouvellements de la foi, et ça intronise une forme de rapport joyeux et décomplexé par rapport à la foi. Parce qu'en fait, l'horizon de la foi, donc les œuvres de Caspar Friedrich, c'est l'horizon du monde, en fait. Alors, c'est le plein horizon du monde lumineux.
Alors, si on les regarde comme ça, parce que certaines, ça donne aussi une impression de solitude, certaines de ces œuvres.
Oui, mais c'est pas... Alors, oui...
Enfin, j'ai une en tête où, en gros, on voit une femme ou un homme sur un fond noir au bord de la mer, on voit bien.
Oui.
Et puis, vraiment, la personne face à cet immense...
C'est le moine.
C'est un moine ?
Ouais, je crois que c'est un moine, ouais.
Ok, bon, bah, peut-être. Mais enfin,
on est dans le thème. Hein.
Il est vraiment là, toute petite, écrasée par une masse noire.
Ah, c'est pas une masse noire ? Oui.
Moi, je crois.
Faudrait qu'on regarde, parce que j'ai l'impression que c'est plutôt un de ses premiers tableaux, justement, avec une immense... C'est la mer. Oui, mais en fait, je pense que son... Oui, c'est un rapport à l'intériorité, évidemment. Enfin, c'est... Je pense pas que ce soit... Enfin, j'ai rien perçu, en tout cas, de trop sombre, en fait, de ce côté-là. C'est plutôt... Oui.
Bon, vous irez voir le tableau, c'est bien.
Je vous propose, parce que là...
Le moine au bord de la mer.
Le moine au bord de la mer, oui, c'est bien
ça. Tout à fait, celle-là.
Alors, c'est une masse plutôt grise.
Bah, c'est-à-dire, ça se découpe. On a vraiment une personne seule sur une plage très aride, en fait, avec la mer un peu agitée devant. Et c'est cette masse noire, moi, que j'avais à l'esprit. Oui, et puis, effectivement, un ciel qui se dégage et s'illumine plus on lève le regard. Mais c'est écrasant. Enfin, je la trouve vraiment très seule au milieu de ce... Mais bon, voilà. Donc,
Mais
avec la lecture que tu proposes, effectivement... Ouais.
Bah, ça interroge ton intériorité, en fait. Ça, c'est une ouverture de l'intériorité. Le romantisme de Caspar Friedrich, c'est vraiment... les grands horizons ouverts du sens, ouais, quoi, et de l'être. Et en fait, là, j'ai trouvé, en fait, dans la contemplation de ces tableaux, une opportunité pour la joie, en fait. Et clairement, chez ce peintre, on a vraiment un discours théologique d'espérance, de résurrection, de renouveau. Et en fait, c'est toute une théologie chrétienne qui se traduit en paysage, en fait. C'est quand même phénoménal.
C'est fort, ouais. Oui. Mais du coup, ça connecte aussi avec la question du sentiment esthétique et de comment dans une démarche artistique, tu peux aussi dire quelque chose de Dieu et être touché par l'expérience de Dieu et par extension aussi dans la démarche créatrice, te relier aussi à Dieu. Enfin, voilà. Y a, à mon avis, il y a quelque chose de fort au niveau du lien à... Mais peut-être à la vie, mais à quelque chose de l'ordre de l'art. Enfin, quand on parle de poétique, c'est aussi le fait de faire, et le mouvement créateur de Dieu, etc. Donc on est, à mon avis, au cœur de quelque chose aussi de plein, de célébratif, de joyeux par rapport à la vie, au-delà de peut-être... les tribulations qu'on projette des fois sur les artistes du savoir-faire nécessaire à toute forme d'artisanat qui peut être une technique mais dans l'art il y a quelque chose aussi qui a le potentiel, on parlait de dépassement dans l'épisode précédent, qui a le potentiel de nous transcender, de dire quelque chose de la transcendance, à mon avis.
Je vous propose qu'on marque un break ici, aussi parce qu'on a réévoqué quand même Dieu dans l'affaire, et c'est justement à cette question que vont nous exposer les capsules qu'on va écouter dans cet épisode. Pour cet épisode, j'ai demandé à Yannick Maury, qui est professeur, et à Christin Schadegger, qui est graphiste, de répondre à la question « Quand est-ce que j'ai expérimenté la joie de Dieu ?»
Ce que je dirais, c'est que j'ai surtout expérimenté la joie lors des moments de partage, des moments en commun Et je pense typiquement au moment qu'on avait eu lors du groupe de jeunes à Saint-Pré, également lors d'échanges qui ont lieu autour de soirées thématiques, par exemple. Je pense aux soirées biodiversité ou même aux matinées biodiversité. Je dirais que c'est beaucoup plus facile d'avoir de la joie et de retrouver de la joie et d'expérimenter de la joie lorsqu'on se retrouve au travers de projets concrets qui sont révélateurs finalement de valeurs communes autour desquelles on peut échanger, puisque c'est évidemment très agréable et très valorisant de pouvoir échanger sur la base de valeurs communes.
Alors, la dernière fois que j'ai expérimenté la joie de Dieu, c'était de nuit, lors d'une insomnie, en priant pour tous ceux et celles qui me venaient comme ça, qui me venaient. Et à force de les nommer, de penser à eux, je me suis retrouvée dans une immense joie et une immense quiétude, voilà. Mais surtout de la joie. Et pour moi, la joie, cette joie-là, c'est comme un canif suisse. C'est un outil de travail. Et en l'occurrence, pendant cette nuit-là, c'était un outil de prière.
Voilà, merci Yannick, merci Christin pour nous avoir donné un petit aperçu de ces éclats de joie qui sont les vôtres. Dimitri, tu avais l'air de pouvoir te lancer.
Oui, je suis très reconnaissant pour ces témoignages, encore une fois, et je les trouve très beaux. Et puis, ça m'a rendu aussi pensif, dans le sens où nous avons tous des joies singulières, en fait. Bien sûr, elles peuvent être liées à la communauté, elles peuvent l'être liées à la volonté de contribuer. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses liées à des partages de valeurs. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de la singularité qui s'exprime, quelque chose qui est presque, on va dire, un peu irréductible.
Bah, c'est un peu une prise de risque de dire ce qui nous met en joie aussi, parce qu'on se dévoile pas mal quand on fait ça.
Oui, et on dit quelque chose de très personnel, au fond. Qu'est-ce qui vraiment nous amène de la joie? Toi, tu as parlé du pogo aussi. Tu vois, alors, je savais que tu aimais ça. Mais c'est vrai que ça m'a rappelé que ta joie pouvait résider dans le fait de
prendre des
de
coups.
Te lancer dans une foule et... Voilà.
Et joie, c'est quelque chose qu'on a en commun quand même, ça.
Joie violente.
Ou alors une joie dans la violence, en ce qui concerne apparemment.
Et violente, mais sans qu'il y ait quelque chose mauvais derrière. Au contraire, c'est exutoire, mais bien sûr, c'est contrôlé. Et c'est vrai que ça nous renvoie quelque part à chacune de nos particularités. De nos petits bonheurs, de nos petites aspérités de nos personnalités. Et puis en fait, elles ont quelque chose aussi qui est à la fois microscopique, qui est aussi qu'on pourrait dire un peu comme un auteur dirait, ça le renvoie à nos vies minuscules. Et en même temps, ça a quelque chose de grandiose. Parce qu'en fait, ça nous ouvre à chaque fois sur une nouvelle dimension de l'altérité. Certaines personnes arrivent à en faire une force. On le voit dans ces deux témoignages. En fait, ça devient des forces constructives pour du lien, pour des projets, pour de l'ouverture sur autrui. Donc ce sont pas des petites joies déconnectées, auto-centrées dans les témoignages que nous avons eus, et y compris dans le tien. Hein, ce sont des joies qui renvoient à la possibilité d'un lien plus fort.
J'allais dire, parce que ce qui est dit, ce que Yannick a proposé sur la communauté, au fond, l'idée d'un partage possible des valeurs et de ce qui nous... là où on se reconnaît les uns les autres aussi, d'un sentiment d'appartenance. Alors, peut-être qu'on se dit tout de suite « le communautarisme, le petit particularisme et tout », mais en fait, il y a un appel à quelque chose qui est de l'ordre du partage, qui est extrêmement fort. Et puis, je veux dire, moi, ça résonne beaucoup avec moi. Autre expérience de joie que j'ai, c'est quand tout d'un coup, je vois que je suscite une rencontre entre des personnes qui ne se connaissaient pas, mais... et que je vois qu'elles ne participent pas du tout des mêmes cercles, mais que quelque chose de chouette se passe entre ces personnes, quel que soit le registre, je veux dire. Et moi, j'ai tendance à souffrir du fait que je participe de différentes sphères qui ne communiquent pas du tout. Moi, en tout cas, un temps, c'était comme ça. Et tout d'un coup, de dire, tiens, il y a un contact un peu inattendu entre ces sphères, et puis en fait, ça, une rencontre heureuse est possible, et un partage est possible. Moi, ça, je suis tellement reconnaissant quand ça arrive, ça. Ça, c'est aussi du registre de la joie quand je vis. C'est ça que j'entends dans ce qui était dit, là, de ces soirées ou des temps de rencontre, quoi. Ça aussi, c'est banal, hein, mais en même temps... Si, je veux dire, si le monde est traversé plus souvent de ce type d'interaction et de ce type de rencontre, enfin, je sais pas, ça s'en porterait pas plus mal, non ? Enfin, un mot.
Tout à fait.
Enfin, si c'était ça, si les rencontres étaient comme ça. Il y en a beaucoup qui sont pas comme ça, mais ouais.
Ouais, je pense qu'il y a une sorte de passage de l'enthousiasme, de la jouissance de soi, à la singularité, à quelque chose qui est voilà, plus ouvert. Ouais. C'est-à-dire qu'au fond, là, c'est ce passage du moment du plaisir à la joie, en fait.
Ah, peut-être.
Je pense que tu as aussi identifié certains aspects de plus incarnés, pour le coup, dans ce que tu disais aussi, Sophie. C'est vraiment qu'il y a une sorte de... Il y a une ligne de crête entre les deux, en fait. Le plaisir se décloisonne en joie, en fait.
Ouais, et puis du coup, moi, ça me fait connecter à cette notion d'outil de travail qui a été introduite. Alors, je sais pas trop ce qu'il y a derrière, mais moi, où je connecte et où je me dis, ah, mais il y a effectivement quelque chose, c'est, bah, à un moment donné, il faut en faire quelque chose. Et il y a cette dimension un peu créative de ces moments de joie qui irriguent une vie, qui te permet aussi de... quand c'est pas la joie, de quand même te connecter à cet espace intérieur où, bah oui, tu sais que c'est un moment qui existe et qui nous... Enfin, il y a aussi une forme d'exigence dans l'évangile à cultiver la joie, même quand c'est difficile. Et c'est comme cultiver l'amour de Dieu, la reconnaissance, etc. Et il y a cette dimension aussi de travailler à faire émerger la joie en soi et autour de soi. Et là, on n'est plus dans quelque chose qui se donne, on est dans l'appel plutôt à cultiver, à grandir. On a discuté de se mettre à la suite du Christ, etc. Pour moi, ça fait aussi partie de cette dimension-là. Donc, c'est aussi un appel et une ouverture, comme tu disais, Dimitri.
J'ai juste cette phrase, je suis pas sûr que ce soit une phrase d'évangile de demeurer dans la joie. De demeurer dans mon amour, il y aura de la joie, je sais plus comment ça allait. Mais toujours sur cette notion d'outillage, c'est vrai que tu peux, dans le registre du déjà et du pas encore, tu vois, enfin, comme on a évoqué dans l'épisode précédent, il y a quand même quelque chose qui s'imprime en toi, tu vois. Avec l'expérience de la joie ou un vécu de joie qui est ambivalent. Ça je pense qu'il faudra toujours dire que la vérité de cette impression, de cette marque qu'il y a en moi, de cette plénitude qui m'a touché à un moment donné, la vérité de ça, elle doit encore, je sais pas comment dire, se remanifester, ça doit encore se confirmer, ça doit dans toute sa vérité que le monde...
Ah bon
dans...
je sais pas.
Ouais, vas-y.
En quoi ça doit se confirmer? Pourquoi ce serait ambivalent?
Parce que il y a tout un monde autour de moi qui n'est pas comme ça. Il y a d'autres gens qui, dans une même situation, dans un même contexte, souffrent à mourir.
Oui, bien sûr, mais ça n'enlève pas ce que tu as ressenti. Enfin,
je l'enlève
pas. Je trouve
pas,
ça bizarre.
Mais pour moi, c'est la portée de cet événement, si tu veux. Alors oui, dans le moment, il y a une vérité entière, intègre, je ne sais pas comment dire, il y a une proximité avec ce qui est vrai, beau et juste à ce moment-là, qui est tout entière, et en même temps, si je prends un autre point de vue sur ma même situation, je dois assumer que ça n'est que l'entièreté de ce que j'ai éprouvé, de ce que j'ai vécu, doit encore atteindre toute son ampleur, et que je ne sais pas jusqu'à où ça va aller, parce que pour l'instant, il y a plein de choses qui le contredisent, au même endroit, au même moment.
Ok.
Tu désapprouves.
Tu penses à quoi en particulier ? On a l'impression que tu te réfères à quelque chose d'assez précis.
Bah, c'est-à-dire, c'est quand la question du ressourcement. C'est-à-dire, je peux m'appuyer justement sur le moment de la joie, je peux me référer à ça, je peux aller me ressourcer là-dedans, et c'est vrai, et c'est bon, et c'est bien. Et je dois assumer qu'en même temps, bah justement, c'est pas généralisable, que je dois toujours porter moi-même, en fait, la vérité de ce moment. D'ailleurs, je crois que c'est contredit par aucun d'entre vous deux, mais c'est, comment dire... Si c'est le cas, c'est aussi un antidote extrêmement fort contre toute forme de captation, justement, de mon expérience, du registre de la joie, du plaisir, etc. Mais ça implique aussi de porter sur soi... je reviens à l'attente, c'est-à-dire que je reviens un peu à l'épisode précédent avec ça, c'est-à-dire quelle est encore l'attente qui est cultivée à partir de cette joie que j'éprouve et qui, en même temps, est-ce qu'elle est parfaite, tu vois ? Est-ce que la joie, elle est parfaite encore ? Est-ce qu'il n'y a pas encore une perfection de la joie qui doit... Alors c'est peut-être très mental comme je dis ça, Mais...
En fait, ouais. Tu nous dis qu'il y a encore quelque chose de perfectible, d'encore qui n'est pas encore entier dans les joies que tu éprouves, qu'elles doivent encore trouver une forme de,
ben non, y a
de
une
confirmation, de rencontre, de quelque chose n'est...
Ou un débordement qui n'a pas... Quelle place il y a pour le manque encore ? Enfin, tu vois, il y a un manque encore qui persiste malgré tout.
D'accord.
Qui ne vient pas nier la réalité de ce que j'ai vécu.
Ben, au fond, ce que tu nous dis, c'est que au cœur de la joie peut s'éprouver aussi, comme dans la souffrance, en fait, un manque, ça peut mettre en creux aussi le manque ou l'absence. Mmh.
C'est ça.
Ça peut être aussi un lieu...
Ouais, comme une forme de place pour le désir de Dieu.
Alors, ça, c'est la manière positive de le formuler, ouais. Je pense que... C'est-à-dire que je pense notamment à des moments où on a parlé des œuvres d'art avant. Il y a un moment donné où l'art occidental, notamment, n'arrive plus à penser précisément ce qui était possible de formuler à l'aide d'un Caspar Friedrich, là. Parce que, en fait, ce plaisir et ce bonheur, notamment qui a été instrumentalisé dans les totalitarismes, l'esthétique qui est instrumentalisée tant par le communisme que par le nazisme, ou les formes de fascisme, pour mobiliser les forces, c'est plus possible, en fait, de penser le plaisir esthétique à ce moment-là. Donc, les seules formes d'art qu'on va générer, c'est des trucs qui sont cassés. C'est des trucs profondément désagréables et qui, en fait, ne peuvent que réfléchir la joie par son absence totale.
Oui, mais attention, parce que dans ce que tu dis, c'est que c'est pas tant que les idéologies ont perverti l'art du 19e siècle, etc., c'est qu'ils ont déjà régénéré une forme propre d'art qui était soumise à leur propre idéologie.
Le fascisme, le communisme,
oui.
Tu dis.
Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'au fond, ils ont éteint ce qui est justement ce qu'il y avait d'ouvert et de beau et de tout ce qui était de l'ordre du plaisir, au fond, esthétique et profond et spirituel. Ils ont plutôt eu tendance à vouloir justement instrumentaliser l'art et du coup à le dénaturer. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas tant un échec de l'art occidental que l'échec de la reprise idéologique de l'art qui sert un projet.
Ouais, et puis moi, je ferai attention à distinguer aussi la notion. On parle pas de plaisir, on parle de joie. Enfin.
C'est ambivalent. Enfin, on voit bien que dans ce qu'on a décrit, tu peux pas complètement le déconnecter, tu vois.
Pour moi, en tout cas, il y a une distinction très claire entre des moments de plaisir et des moments de joie. C'est pas du tout la même chose.
Ok.
C'est pour moi. Ouais, là, il y a vraiment quelque chose de qualitativement différent.
Il y a un saut qualitatif.
Ou ce qui me rapproche de l'idée que c'est une expérience de Dieu, de quelque chose de l'ordre du divin, du transcendant, c'est que justement, il y a quelque chose qui dépasse le simple plaisir physique ou sensoriel. Ouais. Non, il y a une forme de transcendance que j'éprouve. Et ça, je veux dire... Enfin... J'ai de la peine à me dire que c'est ambivalent.
Ouais, parce qu'en plus, ça me déconnecterait à nouveau de mon corps. Enfin, en lien avec la discussion qu'on mène depuis le début de l'épisode, je comprends pas.
J'ai l'impression que si on dit « Ah, c'est ambivalent », en fait, c'est une pensée qu'on rajoute. Ou c'est une dévalorisation de... Enfin, c'est exactement... On est dans l'inverse de ce que j'essaierais de mettre en avant,
Parce qu'il y a eu cette idée d'agir à partir... Enfin, quand la joie comme outil, justement, c'est un lieu à partir duquel je peux agir, donc que je peux identifier, que je peux aller chercher, et à la fois ce que j'aimerais valoriser, et en même temps essayer de trouver une manière de...
Oui, voilà, l'outil, c'est une expérience dans laquelle je puise, c'est dans ce sens-là, plutôt.
Et que ça m'appartient... Pour un bon bout, je ne peux qu'en parler à la première personne.
Oui.
Je ne vais pas commencer à essayer d'en faire une voie d'accès pour d'autres. Enfin, je peux en témoigner, je peux en parler, mais je dois aussi être prêt à être exposé au fait que ça va clasher, en fait, peut-être aussi avec d'autres expériences qui, sur le même objet, génèrent complètement autre chose. On peut avoir une relation au Père éternel magnifique et pleine d'amour et d'unité... Voilà, mais aussi une relation complètement impossible parce que le père a été un abuseur, le père biologique est un abuseur et un violeur, quoi. Enfin, voilà, je dis, pour moi, quand je témoigne de la joie, c'est peut-être plutôt ça aussi que je vis. Si j'utilise la joie comme un outil à partir duquel je me ressource, je m'appuie, à partir duquel je peux exister, et je pense que c'est un cadeau, je pense que c'est vrai, ça fait partie de l'expérience du monde, en même temps, je m'expose à tout le reste, en fait, et la violence du reste qui peut aussi se manifester autour d'un truc qui moi était fantastique, quoi, enfin, ouais, et plein de paix.
Disons que, voilà, pour, je vois le l'ornière dans lequel tu nous as mis, mais l'idée étant que il y a un indicateur quand même en termes de bienfaisance, d'horizon, de sens, d'ouverture, du plaisir qui mène à la joie. Et là, tu pointes sur le fait que le plaisir peut être hyper auto-centré, hyper cloisonné, qu'il y a un risque dans le fait qu'on puisse simplement être déconnecté aussi de l'autre dans la pure jouissance. Tu vois ce que je veux dire? Tu pointes le danger qu'il y aurait justement d'en rester là. Parce que là, du coup, c'est même pas qualifié moralement.
Ouais.
C'est le,
tu vois, quand on te remet en cause, je témoigne de quelque chose que j'ai vécu de fort, que j'associe des choses extrêmement positives à ça. Peut-être que je suis pas conscient toujours de ce que ça fait avec moi d'ailleurs. Mais après, je dois m'exposer au fait que c'est remis en question, c'est critiqué, on pointe du doigt des choses qui sont ambivalentes dans ce que j'ai vécu.
Oui, parce que l'expérience, elle est irréductible. Donc t'en parles.
Ouais, ouais.
Donc tu peux que traduire ton expérience et ensuite elle va être reçue à l'aune d'autres expériences.
Mais je pense que t'as beaucoup de situations où on se parle complètement à côté, parce que tout d'un coup je me sens attaqué dans une expérience de joie profonde à laquelle j'associe tout plein de choses. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses. Je veux dire, quand on parlait un peu des effets manipulateurs que peut avoir certaines formes de religiosité, mais de toutes sortes. Mais en fait, des gens se sentent directement aussi attaqués dans cette expérience forte, quand on les attaque sur le modèle qui les génère.
Oui,
mais du coup, nous, on arrive, j'en sais rien si on y arrive, on parle d'un rapport différencié à sa propre expérience,
mais en même temps... Tu peux avoir voilà, il y a quelque chose qui t'appartient, c'est ton expérience. Maintenant, la manière, une fois que tu traduiras ton expérience dans des mots et que tu la communiqueras, évidemment, c'est pas un vase communicant.
Ouais, c'est
l'autre ne pourra, tu pourras pas induire la même expérience que tu as eue chez quelqu'un d'autre, même si les mots peuvent vous rejoindre ou vous éloigner.
Je pense que c'est pour ça que pour moi, la thématique de la communauté, par exemple, est assez forte. C'est parce que j'ai conscience de cet abîme qu'en fait se place entre nos joies, entre guillemets. Et c'est un des éléments pour moi d'espérance aussi, de dire que la joie de Dieu est possible et réelle, et il y a encore un excès de ça, quoi.
Mais tu vois, ce que tu dis, c'est intéressant dans le sens où, par exemple, le plaisir de l'amitié, la joie de l'amitié. Si tu interroges les deux amis, ils seront peut-être pas amis pour les mêmes raisons, ils apprécieront pas les mêmes choses au même moment, et éprouveront des joies tout à fait distinctes, et pourtant c'est ça qui constituera leur amitié. Ils vont pas contester leur amitié, même si en fait ils vivent absolument pas les mêmes choses. Déjà le champ perceptif est pas le même.
Tout à fait.
Donc je pense que ça, c'est aussi l'opportunité de la joie, c'est qu'elle est elle peut se vivre avec une forme de singularité, de distinction, tout en étant l'opportunité d'un lien qui soit plus fort, enfin, et tangible. Je pense que dans le couple, il y a quelque chose de ça aussi. On s'aime pas pour les mêmes raisons.
Écoutez, je pense qu'on arrive gentiment au terme de ce round de discussion. Dimitri, ce sera toi aujourd'hui qui va nous donner une impulsion autour de la plénitude de la joie et des échanges qu'on vient d'avoir.
Oui, alors comme impulsion, je vous invite, un petit peu comme dans les ateliers d'écriture, à écrire trois phrases. Je suis heureux quand je, ou lorsque je. Vous réfléchissez bien et vous écrivez trois phrases. Je vous donne mes trois phrases, comme ça peut-être que ça peut vous inspirer. Je suis heureux quand je prends le bus et je ne sais pas où je vais. Je suis heureux lorsque je me sens dans l'errance. Je suis heureux quand je sais que ma fille va venir à 4 heures. Et là, je vous ai communiqué quelques
pistes.
Quelques pistes de ces bonheurs singuliers.
Sachant que la piste, c'est de l'écrire, ces phrases. C'est pas
exactement
de redire ce que tu as dit.
C'est pas de les redire, bien sûr. Je vous donne juste une impulsion pour l'exercice, si vous souhaitez le faire. Et puis, de voir en fait à quel point ces moments de joie vous habitent, vous déplacent, et encore une fois, vous ouvre sur de nouvelles expériences, sur un accueil plus radical là aussi.
Merci pour cette belle impulsion pratique. On a quelque chose à faire là. Et puis nous, on se réjouit de vous retrouver au prochain épisode. Ce sera à nous une prochaine session d'enregistrement. Pour nous, là, on arrive au terme d'un bloc. Et puis à nouveau, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux, à le commenter, à rentrer en discussion avec nous. On se réjouira de vous lire et on verra là comment aussi peut-être on pourra faire un peu de place pour des retours dans nos enregistrements quand on recevra des échos. D'ici là, portez-vous bien et le meilleur à vous. Ciao.
À bientôt.